Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine qui ouvre ses portes. On vous accompagne, vous le savez, jusqu'à midi, jour après jour, pour vous offrir le plus large spectre d'expertise lié au monde de votre argent. Et on file tout de suite sur les marchés, retrouver Mickaël Jacobi qui nous attend chez Oddo BHF. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bon, le marché parisien, il a pris la roue de New York, des places asiatiques, mais on sent bien que cette hausse pourrait peut-être s'essouffler.
Alors effectivement, après les variations assez spectaculaires qu'on a vues hier, on en parle peut-être parce que c'était effectivement assez inouï. Hein. On attendait donc les prix de l'inflation hier qui ont été publiés à 14h30. Le marché avant anticipait plutôt des chiffres à la hausse en baissant un petit peu. Juste avant la publication des chiffres, le marché s'était mis à reprendre ses lunettes positives et était à plus 1%. Juste après les chiffres qui effectivement confirmaient une grosse inflation, on a eu des variations allant jusqu'à moins 2% sur les marchés européens. Tout ça pour terminer positif à quasiment 1,5% de façon générale avec des marchés US qui ont poursuivi effectivement à la hausse et un marché aujourd'hui qui continue à la hausse. Alors, pourquoi est-ce que c'est surprenant? Effectivement, on est face à des chiffres à l'inflation qui confirment une augmentation des taux par les différentes banques centrales. Donc, on est effectivement dans une politique de contre-carrer l'inflation en cours et ce qui devrait donner envie aux différents investisseurs de vendre. Alors que là, effectivement, on a des marchés plutôt bien orientés. Alors, la fragilité, vous avez très bien fait de mettre en avant, c'est que effectivement on était plutôt autour de plus 1%, voire plus ce matin à l'ouverture, et là ça s'effrite légèrement, tout ça sous fond de volumes qui sont quasiment 50% plus élevés que la moyenne. Donc on a de la nervosité.
Ouais, il y a quelques dossiers aussi à regarder ce matin. Peut-être commençons par un gadin du jour. Il faut regarder du côté de Zurich, et on est dans le secteur bancaire, c'est Temenos.
Absolument. Donc Temenos qui est dans le rouge fortement aujourd'hui à quasiment moins 21%, qui effectivement a publié un profit warning significatif, et donc qui empile les trimestres négatifs sur leur business et effectivement tout ce qui est moyen de paiement électrique et donc service auprès des banques est aujourd'hui extrêmement sous pression, et on voit bien que on a probablement quelques trimestres encore difficiles devant nous. En tous les cas, les investisseurs punissent le titre en vendant assez massivement, ce qui explique cette performance très négative. D'ailleurs, le secteur est assez sous pression aujourd'hui sur les moyens de paiement.
Voilà donc pour ce dossier, effectivement, donc Temenos côté à Zurich, et puis à Paris, Vinci.
Vinci donc publie des chiffres aujourd'hui, notamment sur les aéroports, qui sont plutôt optimistes de façon surprenante. Hein. On est face à une augmentation séquentielle par rapport à l'année dernière qui est assez significative. On est toujours en négatif par rapport à 2019, au comparable. En revanche, on voit qu'il y a une meilleure visibilité et une meilleure performance sur le mois de septembre pour les aéroports de Vinci. Et le titre aujourd'hui est quasiment en ligne avec le marché. Hein. On performe à 0,73 dans le positif.
Voilà donc. Et puis un dernier mot sur Danone.
Alors Danone annonce sa séparation en fait de son activité en Russie, hein, et notamment sur le lait. Et alors c'est effectivement une perte de 1 milliard d'euros. Hein. Ils vont transférer le contrôle de ces opérations, de leurs opérations en Russie. Ceci est, on va dire factuellement, une nouvelle qui était négative sur le papier. En revanche, le marché accueille cette nouvelle positivement parce que D'une part, on était face à des opérations qui étaient plutôt en dessous du niveau de rentabilité de Danone et qu'effectivement, les opérations en Russie, du fait de la guerre avec l'Ukraine, sont rassurantes, en tous les cas, pour les investisseurs. Et donc, la performance de plus de 2% sur Danone s'explique ainsi.
Merci beaucoup, Michael. Michael Jacobi, donc, depuis Odo BHF. Tout de suite, l'info éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, c'est toujours la grève dans les raffineries. Un compromis a été trouvé cette nuit entre Total Energy et les syndicats majoritaires. L'accord prévoit 7% d'augmentation de salaire et 3 000 à 6 000 euros de primes. Accord dénoncé par la CGT, minoritaire à l'échelle de groupe, mais majoritaire dans les raffineries. Ce matin, le recours en référé de la CGT contre les réquisitions a été rejeté. Mais la grève se poursuit sur tous les sites. La situation s'améliore néanmoins dans les stations-service. Désormais, moins d'un tiers d'entre elles sont à sec. Un conflit qui fait tache d'huile puisqu'un appel à la grève générale a été lancé pour mardi prochain. Les salariés sont appelés à manifester pour les salaires et la défense du droit de grève. Le mouvement touchera les transports, SNCF et RATP en tête, ainsi que le secteur de l'énergie. Et puis toujours à propos de Total Energy, le groupe est visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre en Ukraine. Deux associations ont porté plainte à Paris. Elles accusent le groupe d'avoir continué à exploiter un gisement en Russie permettant de fabriquer du carburant utilisé par des avions russes dans le conflit. Danone entame son retrait de Russie, annonce ce matin dans un communiqué. Le géant laitier va transférer le contrôle de ses activités sur place, sauf la nutrition infantile. Le marché russe représente 5% du chiffre d'affaires consolidée et le retrait pourrait entraîner une dépréciation allant jusqu'à 1 milliard d'euros. La Suède va construire de nouveaux réacteurs nucléaires, c'est ce qu'annonce le nouveau gouvernement de droite ce matin. Stockholm entend ainsi satisfaire la demande croissante d'électricité. Dans l'actualité entreprise, Renault, pour la première fois, Luca De Meo confirme que les négociations avancent avec Nissan. C'est une question de semaines, a-t-il confié hier en marge d'une conférence de presse. Renault accepterait de diminuer sa participation au sein de Nissan si Nissan investit dans la nouvelle entité électrique du groupe français. Et puis, un dernier mot pour parler de l'inflation qui continue de ralentir. Les prix progressent de 5,6% en septembre sur un an. Confirmation de l'INSEE ce matin après une hausse de 5,9% en août. Une décélération due au ralentissement des prix dans les services et l'énergie, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie Collot, que l'on retrouve donc toutes les heures pour un point complet sur l'actualité.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé ce matin entre Daniel Gerino et Emmanuel Salle. Bonjour messieurs.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Daniel pour Carlton Sélection, Emmanuel pour Financière de la Cité. Dites-moi, les mauvaises nouvelles sont déjà dans les courses qui permet le rebond ou pas complètement ?
Pas complètement. Hein. Moi, je pense que là, on a eu une réaction assez surprenante de la part des marchés, notamment des marchés américains, puisque le chiffre a quand même été assez fort. Hein. Le chiffre, le core inflation est remonté de 0,6, on s'attendait à 0,4. Mais c'est un petit peu ce que l'on prévoyait, c'est-à-dire que l'inflation globale va décélérer, mais l'inflation core va monter. Et c'est ce que l'on constate déjà aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce que l'inflation core, elle met en dehors les aspects énergie, les aspects alimentaires, hein, toutes ces composantes sont exclues. Donc c'est essentiellement la hausse des salaires. Il y a hausse des salaires, c'est assez important aux États-Unis. Donc ça pousse toujours l'inflation core vers le haut. Et puis on a une baisse de la productivité aux États-Unis. Donc tout ça n'est pas très très bon. Je pense que le marché, lui, a analysé les choses en disant les véhicules, les voitures d'occasion, les prix ont un peu baissé. Sur l'immobilier, les prix ont un peu baissé. Alors il est vrai qu'on voit quand même qu'aux États-Unis, on a sans doute atteint un pic sur l'inflation, on n'en est pas très loin. Donc, ça laisse présager une action sur la Banque centrale qui sera peut-être un petit peu moins violente, même si nous pensons qu'elle montera ses taux de 0,75, sans doute pas de 1%. La vraie question qui va se poser, c'est de savoir jusqu'où doit aller la Banque centrale américaine. Est-ce qu'elle doit aller jusqu'au niveau du core PCE ? Et à ce moment-là, on serait plutôt sur des niveaux de 5%. Ou alors, elle va se limiter à entre 3,5 et 4%. Nous, on pense qu'elle va aller au-delà de 4, sans doute sur des niveaux de 4,5. Et donc, derrière, on aura toute la problématique de la Banque Centrale Européenne qui ne peut pas laisser filer le dollar, puisque le dollar est quand même très, très fort. Après, sur ce qui s'est passé hier, il y a quand même un autre phénomène. Il y a énormément de hedge funds qui ont joué contre le marché, qui étaient short et qui se sont rachetés. Et donc, cette position, elle est un petit peu liée au mouvement de flux plus que la tendance de fond.
Emmanuel, c'est déjà pricé ou pas encore ? Le rebond technique n'est pas fondamental ? Comment voyez-vous les choses ?
Écoutez, je pense que tout dépendra de la Banque centrale et de l'anticipation des orientations de politique monétaire. C'est vrai que il y a eu plusieurs voix qui se sont élevées ces derniers jours, notamment Lael Brainard, qui est la vice-présidente de la Fed, également Bernanke, qui vient de recevoir d'ailleurs le prix Nobel, pour dire « faisons attention, ne remontons pas les taux d'intérêt trop rapidement parce qu'on risque de casser la sphère financière et donc d'engendrer des difficultés comme on l'a vu notamment en Grande-Bretagne. » Donc je pense également que dans ce rebond, il y a également la perception qu'il y aurait à un moment un retournement des politiques monétaires vers des orientations peut-être plus accommodantes. Néanmoins, mon sentiment, c'est qu'on n'est pas encore arrivé totalement au bout de la correction sur les marchés. Alors bien évidemment, on a des mouvements de rebond, mais la Fed, à mon avis, va poursuivre son resserrement monétaire. C'est d'ailleurs assez logique. Le problème, c'est surtout en zone euro, parce qu'aux États-Unis, l'inflation, c'est grosso modo 50% l'offre et 50% la demande, alors qu'en zone euro, l'inflation, c'est 100% l'offre. Et quand on sait qu'aujourd'hui la BCE s'est engagée dans un mouvement de resserrement monétaire qui va peser sur la croissance, sur l'activité, sur l'emploi, alors que nous sommes beaucoup moins avancés que les États-Unis dans le cycle économique, ça soulève quelques difficultés.
Du coup, pour le moment, adieu le pivot de la Fed, quand on voit l'emploi la semaine dernière, quand on voit l'inflation hier, quand on verra peut-être encore tout à l'heure les chiffres de vente de détail, de confiance des consos.
Moi, je pense que la Fed, elle peut pas se déjuger, elle a déjà un peu raté le coup quand même, c'est au troisième trimestre.
Et donc on peut arriver aux 100 points de base ?
Peut-être pas aux 100 points de base, mais
ça commence à chauffer. Enfin, hier, quand on voit les stats chez les bookmakers, entre guillemets...
Objectivement, alors il y a le FedWatch qui dit 13% de probabilité que nous ayons une hausse de taux de 100 points de base. Simplement, si on veut vraiment lutter contre l'inflation, on est toujours à attendre les différents comités de mois en mois. Si on veut réellement attaquer l'inflation, il faut peut-être taper très fort d'un seul coup. Ça, ils ne le font pas. Donc, ils y vont à dose pas homéopathique, parce que 75 points de base, c'est quand même pas de l'homéopathie, c'est quand même un traitement de choc, mais ils y vont de façon très progressive. Plus on tarde, pire ce sera, puisque l'impact, on s'est aperçu en fait que les revendications salariales des Américains étaient extrêmement liées à leur perception de l'inflation. Mmh. Or, leur perception de l'inflation, elle n'est pas bonne. Donc, ils réclament énormément de hausses de salaire. Et tant que la Federal Reserve tempère ses actions de hausse de taux d'intérêt ou les programmes sur des périodes de 3 mois, 6 mois, eh bien, pendant ce temps, les revendications montent et le corps PCE, c'est-à-dire l'inflation que regarde la Federal Reserve, lui, monte. Et on risque de se retrouver, encore une fois, avec un temps de retard. Mais la Federal Reserve ne peut pas se déjuger. Ça fait des mois qu'elle nous indique qu'elle veut absolument monter les taux, casser les problèmes d'inflation par le biais d'une quasi-récession qu'ils ont pratiquement eue. Donc ils ne peuvent pas se déjuger maintenant.
Pas de pivot de la Fed non plus ?
Alors moi, je suis peut-être un tout petit peu plus nuancé sur ce sujet. J'ai le sentiment qu'on a déjà eu quand même une contraction de la masse monétaire qui est absolument considérable. Il faut remonter, à mon sens, au niveau des années 80, au début des années 80, sous l'ère Volcker, voire aux années 20, pour connaître en fait une telle compression des concours financiers à l'économie, parce que ça concerne non seulement, bien sûr, les taux d'intérêt, mais également les marchés d'actions. Et quand vous voyez l'indice des conditions financières aux États-Unis, on est revenu à des niveaux de tension qui sont historiquement élevés, à peu près au niveau de la la crise du Covid, voire au niveau de la crise de 2008 aux États-Unis et encore plus en zone euro. Donc on a fait déjà une très grande partie du chemin. Alors effectivement, il y a un problème de crédibilité de la Fed. Je pense qu'elle souhaite surtout calmer le marché de l'emploi, faire en sorte que le dynamisme du marché de l'emploi américain, qui se traduit par des offres d'emploi tout à fait considérables, retrouve finalement une certaine normalité, ce qui effectivement permettra de calmer les salaires, parce que le moteur de la hausse des salaires, c'est surtout des gens qui changent d'emploi, c'est pas des gens qui trouvent, qui prennent un nouvel emploi.
Bien sûr.
Et donc, pour conclure, j'ai le sentiment que comme une grande partie du chemin a été fait, il faudra suivre, à mon avis, très attentivement les déclarations de Powell, mais également de l'entourage de Powell pour se positionner au bon moment. Mais pour cela, il conviendra d'avoir dans les portefeuilles de la poudre sèche et d'avoir les réserves nécessaires pour investir le moment venu. À mon avis, c'est pas encore le cas.
Voilà donc pour ce cas américain qui n'est pas le seul, parce que si on lit le FMI, USA, Chine, zone euro, les trois principales économies du monde vont caler en 2023.
C'est inévitable, avec une remontée des taux, restriction des conditions financières, plus un surcoût quand même considérable au niveau de l'énergie. Ça donne des compressions de marge, de marge d'exploitation. Ça donne également un prélèvement sur la consommation des ménages, et on sait que la consommation des ménages, en gros, c'est les deux tiers du PIB dans la plupart des pays. Donc vous avez tous les éléments qui sont là, plus cette guerre qui crée quand même une zone d'incertitude très forte pour que les économies dérapent. Et moi, je pense qu'on n'est pas arrivé au bout, que les banquiers centraux vont se focaliser donc sur cette réduction de l'inflation, mais la plupart des pays ont des contraintes. L'Europe a une contrainte qui est liée à l'énergie, les États-Unis ont une contrainte liée à l'inflation et à la hausse des salaires, et la Chine a une contrainte Covid. Son économie est bloquée par des confinements. Les confinements sont obligatoires parce que le système sanitaire est déplorable en Chine.
Sur l'Europe, juste, on va faire un abus de langage parce qu'on va mettre le Royaume-Uni dedans et puis on va utiliser le mot fragmentation, mais si on regarde le Royaume-Uni, si on regarde l'Italie et puis si on regarde l'Allemagne avec la bronca des 200 milliards chez les partenaires européens, rien ne va plus.
Mais oui, rien n'est bon. Vous avez une Italie qui est en train de se chercher, vous avez l'Allemagne qui est sur le plan des services, c'est une véritable catastrophe, les niveaux de PMI sont à 45, un plus bas historique depuis 40 ans, une économie qui est centrée essentiellement sur quelques secteurs, dépendant énormément de l'énergie russe, donc tout est là pour que ça se passe pas bien. La France se singularise un peu dans ce décor, parce qu'elle tient essentiellement par le biais de ponctions budgétaires, c'est-à-dire d'aides budgétaires qui font que on va avoir progressivement notre stock de dettes qui va augmenter. Et moi, j'ai un peu le sentiment que la France a une politique qui commence à ressembler de plus en plus à la politique italienne, c'est-à-dire on augmente les dettes de plus en plus pour calmer toutes les problématiques que l'on peut avoir en termes économiques. Mais globalement, le scénario, il n'est pas rose. Mmh. Et il n'est pas rose en Europe, parce que comment est-ce qu'on va trouver un substitut à l'énergie russe ? C'est très long à mettre en place, et quand vous regardez le différentiel de coûts entre le gaz...
Vous avez vu, les Suédois vont rouvrir des centrales nucléaires ?
Pour dans 5 ans. le gaz européen et le gaz américain, c'est pas du tout le même prix.
Ouais.
On ne joue pas dans la même cour. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué.
Comment vous voyez les choses, vous, en Europe ? On dira un mot important de la Chine après. J'ai coupé un peu la Chine.
Effectivement, en Europe, on est une situation qui est extrêmement fragmentée. L'Europe est plus divisée, plus fragmentée qu'elle ne l'est jamais face à l'impérialisme russe. Alors, effectivement, il y a le problème allemand que l'on connaît. Et donc, finalement, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est d'une certaine manière la remise en cause de toute la stratégie économique de l'Allemagne depuis une vingtaine d'années, qui a consisté à confier ses matières premières à la Russie, sa sécurité aux États-Unis. Donc, on a un découplage de l'Europe, qui a d'ailleurs été mise en évidence hier par Joseph Borrell, qui est extrêmement préoccupant. C'est-à-dire que si l'Europe veut devenir véritablement une entité souveraine, il faut qu'elle mette fin à ce découplage entre sa souveraineté de défense et sa souveraineté énergétique. Donc on va en prendre le chemin, ça prendra beaucoup de temps. J'ai le sentiment que les Allemands, comme d'habitude, gardent toujours une carte ouverte, donc toujours une politique de réassurance à l'Est. Donc on verra ce qu'il en adviendra. Le virage vers des économies, vers l'énergie nucléaire, vers des économies vers des énergies vertes, pardon, prendra énormément de temps. Dans ce contexte, j'ai le sentiment que la France est quand même plutôt bien positionnée, hein, en raison de choix que nous avons fait maintenant il y a 50 ans, même si on a une très grande partie du parc de nos réacteurs nucléaires qui est à l'arrêt. C'est quelque chose qui va être réglé, semble-t-il, au cours des prochains mois. On n'en parle pas trop, mais ça nous aide. S'agissant du financement de tout cela, effectivement, ça va peser sur le budget, c'est un peu le rôle de l'État. Alors, est-ce que la France va devenir comme l'Italie? Il y a quand même une différence, c'est que l'Italie, elle est en situation d'excédent primaire.
Absolument.
Et que, effectivement, les recettes fiscales en Italie équilibrent, effectivement, c'est les dépenses de l'État, hors, bien évidemment, remboursement de la dette. Et elle est en excédent primaire depuis les années 60-70. C'est un pays extrêmement économe, hein, et quand vous êtes en Italie, vous voyez bien que c'est un peuple extrêmement près de ses sous, je dirais. Et c'est un pays exportateur, c'est un pays industriel, où l'industrie représente encore 15% à peu près du PIB. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la France. En France, elle est en déficit primaire depuis la fin des années 80.
De ce point de vue, je pense qu'on est les plus mauvais élèves, hein, sur les balances de paiement courant, solde primaire, excédent commercial, c'est catastrophique.
Maintenant, on a quand même une économie qui nous permet, enfin une agriculture prospère, qui nous permet on est indépendant de ce point de vue-là, et puis on a la force de frappe. C'est quelque chose qui fait que la situation française est tout à fait unique en Europe. Donc quand je vois, par exemple, le discours de Borrell hier sur la stratégie diplomatique de l'Europe, etc., avec ce phénomène de découplage dont il parle entre la défense et l'énergie, ça ne s'applique pas à la France, et la France n'est pas rien en Europe. Hein. La France, elle est dans une situation totalement différente. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle ne s'associe pas trop à ces discours un peu généraux.
Voilà donc pour notre cas européen. Puis alors, la Chine, je vous ai un petit peu réfréné, mais c'est vrai que là, on rentre dans le vif du sujet. C'est dimanche, hein, dimanche, je crois, que s'ouvre le 20e congrès du Parti communiste. Avec Xi Jinping, oui, qui va avoir droit à son troisième mandat puisqu'il a modifié tout ça. Tout le monde dit qu'il en aura même probablement un quatrième. Enfin, penser de la Chine qui est quand même pas dans une situation économique très enviable?
Non, elle n'est pas dans une situation économique enviable. Le pouvoir est quand même affaibli, même si on n'a pas de doute sur la reconduite de Xi Jinping à la tête de l'État. Simplement, les manifestations...
De la tête, oui, enfin, du parti, de l'armée et de l'État.
Et de l'État, hein, voilà. Xi Jinping, enfin, les mouvements qu'on peut connaître de contestation en Chine sont à la méthode chinoise, c'est-à-dire c'est toujours très soft. Mais il n'empêche qu'un certain nombre de membres du Parti communiste lui disent « Mais vous êtes garant quand même de la stabilité, de la sécurité, de la santé, et de ce point de vue, vous n'avez pas fait tout ce qu'il était nécessaire de faire. » Et j'aurais tendance à dire que malheureusement, il n'a pas pu faire tellement plus. Le système sanitaire chinois est dans un état déplorable, c'est-à-dire que les hôpitaux ne sont pas en capacité d'accueillir tous les malades du Covid. Parallèlement à ça, le vaccin, il a un degré d'efficacité qui est de l'ordre de 3-4%. C'est un quasi placebo. Donc, on est dans une situation où il n'y a pas d'autre possibilité que de confiner. Mais quand vous confinez, bah, vous vous rendez compte que c'est toute l'industrie mondiale qui s'arrête. Il suffit de regarder le cours des matières premières, des métaux, ferreux et non ferreux. À part le palladium, tous les métaux sont à la baisse, que ce soit le fer, l'aluminium, le zinc, le cuivre, moins 25% sur le cuivre. Donc vous voyez que la Chine, elle est en panne aujourd'hui. Alors elle doit relancer son économie, elle a les moyens, elle a plus de 3200 milliards de réserves de change, de dollars, hein, de réserves de change, donc elle a quand même les moyens d'intervenir. Elle a des taux très bas, elle n'a pas d'inflation, par contre elle a un énorme problème, c'est l'immobilier. Et l'immobilier aujourd'hui, ça pèse directement et indirectement pratiquement 40% du PIB.
On a vu des gouverneurs racheter des maisons.
Voilà. Et les gens ne veulent plus payer. Mmh. Parce qu'en Chine, quand vous faites un achat immobilier, c'est sur un programme à venir. Et vous commencez à payer, même si ce n'est pas fini. Là, ils arrêtent de payer.
Emmanuel, cette situation chinoise.
Je pense que le problème de la Chine, et d'ailleurs il est bien compris par les autorités chinoises, c'est que c'est une croissance qui a été portée depuis 20 ans essentiellement par l'investissement. Hein, l'investissement de l'État, l'investissement des grandes entreprises publiques. Et quand vous avez une entreprise qui est portée par l'investissement, vous avez trop d'épargne, vous avez trop de dettes également, ce qui est son corollaire, et vous avez insuffisamment de consommation des ménages. Il faut savoir que la consommation des ménages dans le PIB, la part de la consommation des ménages dans le PIB en Chine, est plus faible qu'elle n'était en 1980. Donc le rééquilibrage de la consommation vers les classes moyennes, vers la consommation des classes moyennes, dans une logique de prospérité commune qui était le projet de Xi, n'a ne s'est pas concrétisé. Et au lieu de ça, on a tapé effectivement, on a voulu réduire la bulle immobilière. Également, on a réduit le pouvoir des grandes entreprises technologiques. Donc, mais en créant des conditions d'incertitude extrêmement fortes sur la croissance chinoise, dont on voit effectivement les conséquences sur le prix des matériaux de base. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur l'avenir de la Chine, avec en plus cette logique d'autocratie, de concentration du pouvoir, sans contre-pouvoir, et on sait très bien où ça mène, hein, surtout lorsqu'on est entouré de gens que l'on a nommés, qui ne font que vous encenser en vous disant que vous êtes absolument formidable, et ça devient une gérontocratie, en fait, hein. Ils ont tous plus de 69 ans.
J'ajouterais justement sur ce point, Emmanuel, qu'il y a le vieillissement de la population, et ça va être
un problème. Oui, il y a un problème démographique
parce que,
énorme.
Ça va décliner très très fortement, et il faut payer les retraites. Or, ils n'ont rien pour l'instant pour payer le système des retraites. Et ça va être une énorme ponction sur l'économie. Donc, il y a des défis.
Allez, il nous reste une minute. Chacun 30 secondes pour nous dire un peu ce qu'on fait. Vous avez un petit peu dévoilé votre jeu tout à l'heure en nous parlant de poudre sec. Mais qu'est-ce qu'on fait d'ici la fin de l'année, du coup?
Alors, nous, on pense que le marché des actions va être en taux ondulé et qu'on a 3-6 mois très très difficiles. Par contre, il faut surveiller de très près le marché américain, parce que à un moment donné, comme on l'a dit, l'inflation va décliner, les taux vont se calmer lorsque les banques centrales auront fait le job, c'est-à-dire, moi je pense, entre 3 et 6 mois. Là, on aura vraisemblablement une petite détente de taux, voire une stabilisation, mais en tout cas, ça donnera un signal pour les valeurs technologiques. Mais c'est beaucoup trop tôt pour le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut avoir de la poudre sec et être tranquille, ben on va acheter des obligations senior secured sur 3-4 ans. Vous avez entre 3,70 et 4,20%. Donc ça paye plutôt pas mal, en attendant d'y voir un tout petit peu plus clair. Si on veut être absolument sur les actions, nous, on préfère le luxe des sociétés sur lesquelles il y a du pricing power. On aime bien aussi la cybersécurité. On aime bien tout ce qui est lié aux économies vertes, hein, des sociétés qui font des panneaux solaires avec des systèmes d'installation chez les ménages pour leur assurer une continuité de l'énergie. Ce sont des sociétés qui marchent très très bien, hein, qui ont des taux de croissance depuis le début, des performances depuis le début de l'année à deux chiffres. Donc il y a quand même parmi tout le spectre pas mal de petites valeurs intéressantes.
Je pense qu'il faut effectivement rester prudent sur les actions. Maintenant, je pense qu'à long terme, on a quand même un phénomène majeur, c'est le retour de l'inflation. Au-delà de l'inflation de court terme qui va nécessairement baisser, on commence à le voir effectivement dans les prix du gaz. L'inflation va s'installer dans le paysage. Et donc, il faut en tirer les conséquences. Donc, à la fois sur les marchés d'actions et sur les marchés de taux d'intérêt, il y a des opportunités. Vous avez des actions qui sont plus appropriées durant les périodes d'inflation. Vous avez également des positions à prendre sur les marchés de taux d'intérêt via des obligations indexées sur l'inflation, éventuellement les courants couvrant contre le risque de taux d'intérêt. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur le marché. Et je pense que finalement, la fin de cette grande période que nous avons connue de 30 ans de baisse de taux d'intérêt, c'est une prime à l'intelligence. Pendant 30 ans, finalement, nos confrères, on peut faire beaucoup d'argent sans réfléchir, en conservant des obligations en portefeuille et en tenant souvent des discours pontifiants sur l'économie et les marchés. Maintenant, ça va être un tout petit peu plus compliqué.
Merci beaucoup à tous les deux pour ces raisonnements. Daniel Gérino, donc, pour Carlton Sélection, Emmanuel Salle pour Financière de la Cité. Bon retour et bon week-end. Le marché parisien, lui, continue pour le moment à grimper, mais enfin, ça n'est pas très, très affirmé. On a touché le plus bas du jour il y a quelques minutes. On ne gagne plus que 0,85%. 5929 points. On va voir ce qu'en dit d'ailleurs un trader dans un instant. On retrouve Stéphane Sauduteil.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
11h32, on file tout de suite sur le marché, prendre le pouls technique de la séance du jour, grâce à Stéphane Sauduteil qui, depuis Technibourse, suit pour nous cette séance et ce rebond plus technique que fondamental, qui s'érode un petit peu, Stéphane.
Oui, c'est vrai. À 11h, on a grignoté encore un petit peu plus ce gap resté ouvert. Maintenant, il est plus que de 22 points, entre 5899 et 5921 points. C'est vraiment un rebond technique. Moi, je pense que on a vraiment touché un point dur sur le Nasdaq 100, par exemple, hein, sur les 10 500 points. Dès qu'on a touché ce niveau, on a rebondi comme vraiment de façon très très véhémente, avec un pessimisme quand même relativement important. Comme je vous le disais tout à l'heure, 18% d'investisseurs haussiers sur les marchés américains, c'est pas beaucoup. Donc les marchés ont pris un petit peu le contre-pied, mais c'est vrai que encore plus que d'habitude, j'ai l'impression qu'on vit au jour le jour, voire même à l'heure. Donc c'est pas vraiment facile pour prendre des grandes initiatives, mais quand même, si on prend un tout petit peu de recul, peut-être que le plan de trading est un peu dégagé pour la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il va falloir surveiller, à mon sens, les 6000-6050 points. Je pense que c'est ce niveau qu'il faudrait déborder pour avoir une hausse un petit peu plus nourrie sur les 6125 points. On a un gap encore ouvert de 25 points, ouvert le 15 septembre dernier, et puis peut-être espérer un peu plus haut vers les 6250 points. Mais là, pour le coup, il faudrait vraiment une aide au niveau des résultats des entreprises américaines. Je suis pas bien sûr de cette... je dirais pas une grande probabilité pour ce style de scénario, je dirais 20-30%, mais il y a peut-être un peu plus de chances que l'on se latéralise maintenant entre 6000-6050 points en haut et puis en bas les 5800-5850 points. Est-ce qu'on peut s'effondrer en dessous des récents points bas de fin septembre sous les 5600-625? J'ai pas trop l'impression pour le moment. On a l'impression que ce marché reste quand même assez résilient et un peu vacciné contre les mauvaises nouvelles, ou alors il faudrait vraiment des très mauvaises nouvelles encore, en n'espérant pas bien sûr les avoir. Je retiens aussi cette semaine le reflux quand même des cours du pétrole sous les $100 sur le Brent. Ça, c'est quand même bien parce que il y avait cette limite technique des $100. Si on était passé au-dessus, là, c'était pas très bon signe. On aurait pu attirer de nouveau des acheteurs et voir le pétrole vers les 110-115 $, avec bien sûr les effets sur les prix à la pompe. Mais on voit également que l'indice des matières premières, l'indice CRB, reste quand même très résilient également. Il n'y a pas que le pétrole dans cet indice. Donc on comprend également pourquoi l'inflation n'arrive pas à baisser malgré les hausses de taux de la Fed. Donc je pense que notre salut d'un point de vue inflation, ça serait quand même une baisse généralisée des matières premières. Et donc ça nous ramène à de la géopolitique. Et il faudrait bien sûr qu'ils trouvent une solution entre l'Ukraine et la Russie. Donc voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, je pense. Et on va avoir ce style de marché pendant certainement de nombreuses semaines.
Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Solutay, donc Technibourse, avec nous ce matin pour lire cette tendance parisienne et ce CAC 40 qui maintenant évolue quasi sur ses plus bas du jour, mais en hausse de 0,83% à 5928 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
C'est Clémence Dachicourt qui est en duplex avec nous depuis Morningstar. Bonjour Clémence, merci d'être au rendez-vous. Ce matin, on fait avec vous un focus sur les fonds ayant un style qualité. Fonds qui peuvent aider les investisseurs dans des environnements de marché volatiles. Mais on va d'abord commencer par expliquer un petit peu ce que c'est qu'un fonds qualité.
Oui, alors un fonds qualité, ce sont des fonds qui suivent un style donc qualité, qui investissent principalement dans des entreprises dotées d'un avantage compétitif significatif. On parle aussi de moat, un terme qui a été mis en avant par Warren Buffett. Elles opèrent avec une structure de coûts extrêmement faible et sont positionnées sur un segment de niche ou bien sont dotées d'une marque forte, ce qui leur permet de maintenir ou d'augmenter leur prix même en période de récession. Elles sont très bien gérées, peu endettées et offrent donc des retours sur investissement plus intéressants pour leurs actionnaires. Dernier point, on trouve plus souvent ces entreprises de qualité dans quatre secteurs principaux: la technologie, la santé, le secteur financier et les biens de consommation.
Et Clémence, pourquoi est-ce qu'il faut privilégier, selon vous, ce style de gestion en ce moment?
Alors, nous sommes dans un contexte de marché difficile. Les actions américaines ont perdu plus de 11% depuis le début de l'année. Une baisse qui s'explique principalement par une érosion des multiples de valorisation et qui n'intègre pas suffisamment les perspectives de baisse des profits des entreprises. Jusqu'ici, beaucoup d'entreprises ont pu maintenir des niveaux de marge records en augmentant leurs prix, car la demande était solide et bien supérieure à l'offre. Cela risque d'être plus compliqué néanmoins dans les mois à venir, puisque les sentiments des consommateurs se détériorent et on arrive à la fin des périodes de restockage. Sur le marché américain, les consensus des analystes attendent toujours une croissance des bénéfices en hausse de 8% l'année prochaine, ce qui semble en décalage avec les attentes de l'OCDE et qui prévoit un ralentissement de l'activité économique. Donc le marché dans son ensemble n'est pas particulièrement attractif, avec un niveau de valorisation qui est tout juste moyen. Et dans un contexte de ralentissement, avec des banques centrales qui resserrent les conditions monétaires pour juguler la demande et l'inflation, détenir des entreprises de qualité nous semble préférable car elles sont plus résilientes.
Voilà un petit peu le cadre posé. Alors, chaque vendredi, grâce à vous, on pioche dans la base Morningstar pour mettre un peu en lumière le thème évoqué. Est-ce que vous avez des idées, justement, de fonds positionnés sur ce segment qualité-croissance à proposer ce matin ?
Alors, en matière de gestion active, on propose deux fonds. Tout d'abord, le fonds Lumicels US Growth Equity, qui est une gestion éprouvée qui investit dans des sociétés américaines avec un modèle économique d'excellence. Les performances du fonds ont été quelque peu décevantes dans un contexte difficile pour les sociétés de forte croissance, mais cela nous semble constituer un bon point d'entrée. Et ce fonds est noté Silver. Deuxième fonds est géré par Brown Advisory, une société de gestion qui a développé une réelle expertise en matière d'investissement durable. Il s'agit d'un fonds Brown Advisory US Sustainable Growth qui investit dans des sociétés bénéficiant d'un avantage concurrentiel structurel directement lié aux problématiques environnementales, sociales ou de gouvernance. Et enfin, pour ceux qui préfèrent une approche passive, le tracker UBS Factor MSCI USA Quality constitue également une bonne option. Il regroupe des sociétés très rentables avec une croissance des profits récurrentes et un faible niveau d'endettement. Et frais prélevés sur cet ETF ne sont que de 25 points de base, un plus également. Il reçoit une note de Silver de la part de nos analystes.
Merci beaucoup Clémence Dachicourt, donc depuis Morningstar ce matin. Le marché parisien, lui, qui progresse toujours, mais qui est sur ses plus bas du jour, plus 0,8%, 5 926 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Les réponses à toutes vos questions trouvent leurs réponses grâce à Grégoire Hudviller ce matin pour Moneta Asset Management. Prêt ?
Prêt.
On rappelle l'adresse, hein, si vous voulez nous écrire, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. C'est Julien qui, depuis Nancy, vous écrit « Mes actions téléperformance sont en baisse de 30% depuis le début de l'année. Que faire ?»
Alors, c'est une bonne question. Téléperformance, c'est une société qu'on aime bien. Pour rappel, c'est le leader mondial hein, des centres d'appel, des centres de contact. Hein, c'est à peu près 2/3 de leur activité. Donc, c'est eux que vous avez au téléphone si vous avez un problème avec votre box internet, si votre avion est annulé, si vous avez un problème avec votre mutuelle. Donc voilà. Donc, ils assurent ce service pour le compte d'entreprise en marque blanche. Donc, ça, c'est une activité sur laquelle ils sont leaders. Et puis, 1/3 de leur activité, c'est des sociétés, c'est des services à valeur ajoutée, donc qu'ils ont acquis par acquisition ces dernières années. Ça va être par exemple la délivrance de visas, donc c'est eux qui s'occupent de délivrer des visas par exemple pour les touristes chinois qui venaient en Europe. Alors malheureusement ils viennent plus beaucoup, mais voilà, donc ils font ça pour beaucoup d'autres pays, et ils ont une autre activité qui croît très bien et qui est très rentable. Ils assurent en fait des services de traduction en temps réel pour les hôpitaux américains. Donc voilà, donc c'est des services très spécialisés, un peu de niche, qui croissent très fort. Donc ça, c'est à peu près 1/3 de l'activité. Téléperformance a effectivement baissé depuis le début de l'année, mais c'est essentiellement en fait une baisse des multiples, hein, puisqu'on n'a pas du tout revu en baisse nos estimations de résultats. Ça s'explique parce que c'est une société de croissance mondiale qui a subi la baisse de ce type de valeur hein, à cause des taux qui étaient en forte croissance. Je pense qu'il y a aussi deux craintes du marché qui ont fait un peu peur. Le premier, c'est le thème de l'inflation, hein, puisque Téléperformance, c'est une société qui a quasiment 400 000 salariés, donc c'est avant tout ce qu'on appelle un people business. Hein, donc c'est une grosse partie de leurs coûts, c'est les coûts salariaux. Nous, notre point, c'est que Téléperformance, c'est plutôt une société qui a l'habitude de gérer l'inflation salariale, puisqu'ils sont présents depuis de nombreuses années dans beaucoup de pays émergents ou des pays où il y a une inflation qui est permanente, hein, comme l'Amérique latine, comme le Maghreb, comme les Philippines. Donc, ils savent faire. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la part du marché, donc du centre de contact qui est encore internalisée par les entreprises, ben, finalement, les entreprises se rendent compte qu'elles ont elles-mêmes les mêmes problèmes d'inflation. Hein. Elles doivent trouver du personnel, elles doivent les payer plus cher. Et donc, elles ont plutôt tendance à aller vers des gens comme Téléperformance pour externaliser cette activité. Téléperformance a des ressources dans les pays qui coûtent moins cher. Donc, c'est plutôt un avantage pour Téléperformance. Donc, nous, on pense que ça va être une société qui va réussir à continuer à croître à un rythme élevé, et on est sur des niveaux de valorisation qui sont devenus attractifs maintenant, puisqu'on est sur 15-16 fois les bénéfices de l'année prochaine. Donc on est plutôt positif.
Donc il fait le dos rond et il garde.
Il faut faire le dos rond, on peut peut-être même éventuellement acheter. En tout cas, nous, c'est plutôt ce qu'on fait chez Moneta.
Moyenné à la baisse.
Exactement. C'est voilà. Un titre qui a quand même fait x5 depuis 10 ans. Hein. Donc on a gagné beaucoup d'argent, et Julien, j'imagine, a gagné beaucoup d'argent dessus ces dernières années quand même.
Bon, bah écoutez, voilà Julien, quelques éléments de réponse sur Téléperformance. Question de Gilles à Paris, qui est actionnaire de Vivendi, et il a donc reçu des titres UMG, hein, Universal Music, et il se demande s'il faut les vendre.
Alors nous sur IMG, donc Universal Music, on est effectivement un peu plus prudent. C'était un bel actif chez Vivendi qui a été distribué aux actionnaires de Vivendi. Donc maintenant tous les actionnaires de Vivendi sont actionnaires. La société a été introduite en bourse avec l'idée qui est encore assez consensuelle que le marché du streaming musical va continuer à croître de 10-15% par an pendant encore longtemps. Et d'après nous, c'est plutôt c'est une hypothèse qui est un petit peu fragile. Elle est fragile pour deux raisons. La première, c'est que nous, on constate que la pénétration du streaming musical payant dans les pays développés, les États-Unis, l'Europe, est déjà à un niveau très élevé. Donc, on n'est pas certain qu'il y ait encore un réservoir très important. Le réservoir, il est plutôt dans les pays émergents, mais qui sont plutôt des consommateurs qui ne payent peu hein, pour la musique. Et en tout cas, le prix des abonnements est beaucoup plus faible. Donc, ce réservoir, il est plutôt assez limité. Et le deuxième point qui nous fait hésiter, c'est que les abonnements que vous pouvez avoir chez Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon et compagnie, c'est des dépenses qui sont quand même des dépenses discrétionnaires. Donc, ils peuvent être éventuellement coupés par les ménages si elles doivent faire des arbitrages budgétaires. Donc, l'hypothèse centrale que c'est un marché qui va rester en croissance pendant longtemps est, à notre avis, un petit peu fragile. Et il faut ajouter à ça que la valorisation d'Universal Music n'est pas donnée, puisque c'est un titre qui se paye 23-24 fois les bénéfices avec les vulnérabilités que je vous ai citées. Donc c'est pour ça que nous on est plutôt prudent sur cette valeur-là aujourd'hui.
Prudence donc, Gilles, sur UMG. Donc a priori c'est mieux de vendre quoi.
On vendrait plutôt nous, ouais. Effectivement.
Nicolas depuis Courbevoie nous parle de Publicis qui résiste bien, mais Nicolas a une crainte, il redoute que le titre finisse par baisser et du coup il voudrait quelques conseils.
Alors effectivement, Publicis résiste assez bien. C'est un titre qui a baissé que de 5% depuis le début de l'année, avec une valorisation qui est quand même très faible, hein, puisqu'on parle de 9 fois les bénéfices attendus. La raison pour laquelle cette valorisation est faible, c'est que le marché est toujours un peu inquiet, parce que le Publicis, c'est une agence de publicité, donc c'est très lié aux dépenses de pub, hein, des gros annonceurs. Donc on peut se dire c'est cyclique. Et ça a toujours été un petit peu le réflexe du marché, c'est de se dire « Ouh là là, c'est cyclique, donc... » Donc j'ai peur, d'où cette valorisation qui est faible. Nous, ce qu'on voit, c'est que Publicis a quand même fait la preuve en 2020, en 2008-2009, que les marges étaient très résistantes. Donc si le chiffre d'affaires peut baisser un peu, les marges restent très résistantes. Il y a deux actifs qui ont été achetés ces dernières années, qui sont aussi des sources de croissance et qui sont assez peu cycliques. C'est Sapient, donc c'est une filiale c'est du conseil en transformation digitale. Ils ont aussi un autre actif qui s'appelle Epsilon, qui est des bases de données qui sont vendues aux clients, qui sont très recherchées. Donc voilà, vous avez un tiers d'activité qui est un peu moins cyclique. C'est une société qui est très présente aux États-Unis, donc ils ont bénéficié de la baisse de l'euro et de la hausse du dollar. Et enfin, c'est une société qui a une structure financière qui est très saine, puisque le groupe n'a quasiment pas de dette. Donc c'est un groupe qui génère beaucoup de cash. Donc nous, on aime bien. Le management est toujours très optimiste sur les perspectives de fin d'année et même de 2023. Donc 2023, on verra. Mais en tout cas, d'après nous, il y a plutôt une source de bonnes surprises sur les résultats qui seront annoncés par Publicis ces prochains temps. Donc voilà, donc on est plutôt positif sur Publicis chez Moneta.
Voilà Nicolas, on passe à la question de Julie. Doit-on revenir sur Bureau Veritas ?
Alors Bureau Veritas, c'est une bonne question. Hein.
Bureau Veritas, dans la certification.
Exactement, c'est une société de TIC, hein, donc testing, inspection, certification. Donc c'est eux qui vérifient que les produits qui viennent d'Asie respectent les normes. C'est eux qui assurent la traçabilité d'un certain nombre de produits. Ils s'assurent également que les entreprises respectent des normes, les normes ISO par exemple. Ils certifient les usines. Donc c'est une société qui est poussée par beaucoup de moteurs réglementaires. Donc ça c'est quand même assez porteur. Ils sont aussi portés par l'ESG finalement. Donc là on peut se dire c'est une société qui est assez résiliente. Il y a quand même plusieurs points qui nous disent de faire attention sur ce dossier-là aujourd'hui. Le premier, c'est qu'il y a une exposition à la Chine qui est élevée, puisque Bureau Veritas fait à peu près 15-20% de son chiffre d'affaires en Chine. Et comme vous le savez, il y a eu des confinements. Il y a toujours des confinements locaux. Donc ça a beaucoup pénalisé Bureau Veritas en début d'année. Il y avait le gros confinement à Shanghai. Il y a toujours la menace de confinements régionaux dans les prochains temps. Donc ça, c'est une source de perturbation pour la société. Le deuxième élément qui nous fait être prudent sur Bureau Veritas, c'est qu'il y a quand même une inflation salariale qui est assez importante. Les salaires, ça représente 50% du chiffre d'affaires chez Bureau Veritas. Donc il est possible qu'on ait un pincement de marge dans les prochains temps sur la société. C'est aussi un titre qui est lié au taux. Hein, donc les taux montants, c'est plutôt mauvais pour la valorisation de Bureau Veritas. Et enfin, il ne faut pas oublier que c'est un titre qui a été porté par la mondialisation hein, depuis le début des années 2000. La mondialisation a plutôt pris fin vers les années 2014-2015 et aujourd'hui on est plutôt sur une re-régionalisation de l'économie. Donc le commerce mondial est plutôt en panne hein, depuis on va dire le mandat de Trump hein, qui avait beaucoup tapé sur la Chine et sur le commerce mondial. Donc voilà, petite prudence sur Bureau Veritas aujourd'hui, avec une valorisation qui est revenue à un niveau qui est correct, mais c'est toujours 20 fois les bénéfices avec les quelques risques que je vous ai cités. Donc pour le moment on va être encore un peu exigeant sur la valorisation de Bureau Veritas.
Question de Richard qui voudrait savoir quelles sont les perspectives que vous avez sur Nexity.
Alors les perspectives pour les promoteurs français en général sont pas très réjouissantes. Hein. Le marché de l'immobilier en France est, on en a beaucoup parlé, hein, a été grippé à la fin du troisième trimestre par le taux d'usure. Hein. Donc les gens n'arrivaient pas à avoir d'emprunt pour leurs projets immobiliers. C'est un secteur qui a subi la hausse des coûts de construction de façon assez importante ces dernières années. Et le prix des terrains, hein, qui est une variable très importante pour les promoteurs immobiliers, n'ont pas encore commencé à baisser. Donc pour le moment, pour un promoteur immobilier, c'est pas le bon moment pour lancer un programme immobilier. Il faut peut-être attendre que les prix baissent. Donc voilà, l'horizon est quand même pas franchement réjouissant. Donc l'inconvénient de Nexity, c'est que c'est un groupe qui est en plus endetté, voire très endetté. Voilà, en ce moment c'est pas forcément le bon pari à avoir. Donc Nexity, on reste prudent. Si on devait en choisir un dans le secteur, ce serait plutôt Kaufmann & Broad, donc qui est un promoteur immobilier de plus petite taille, mais qui est plus agile, qui a une meilleure structure financière et qui a plusieurs facteurs, on va dire, propres qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est qu'ils ont un gros projet qui est dans les tuyaux en gare d'Austerlitz à Paris, qui serait un projet à plus d'un milliard d'euros. Donc ça, voilà. Il est bloqué actuellement par des recours, mais si ces recours sont levés, on pourrait avoir les constructions qui démarrent en 2023-2024. Donc ça pourrait être un facteur de soutien pour l'activité de Kaufmann & Broad. Et le deuxième élément, c'est qu'un de ses concurrents s'est invité à son capital pendant le Covid, hein, donc en 2020-2021. Il y a Promogym qui est monté au capital de Kaufmann & Broad, qui est aujourd'hui un peu plus de 20% du capital. Et ça, on pense qu'il y a cette dimension spéculative qui est intéressante. Et ça fait plutôt, on va dire, un filet de protection à la baisse. Si jamais le titre baisse, on pense que Promogym pourrait continuer à monter au capital, sachant qu'Hoffmann & Bone a une valorisation qui est quand même assez faible.
Allez, une petite minute pour répondre à Maxime depuis Marseille, qui voudrait savoir ce que vous pensez d'Orange, là.
Orange, bon, c'est une valeur sur laquelle on a toujours un peu de mal à s'enthousiasmer, hein, puisque c'est un secteur sur lequel il y a fondamentalement assez peu de croissance. Hein, c'est Orange est très présent en France, en Belgique, en Espagne, donc qui sont des marchés assez matures sur lesquels il y a beaucoup de concurrence, donc il y a assez peu de croissance. L'Afrique, c'est une région qui est intéressante, qui croît, mais c'est pas l'essentiel de l'activité. Donc voilà, on a du mal à être emballé. Ce qui aiderait à dynamiser le titre, c'est si les opérateurs télécoms arrivaient à passer des hausses de prix sur les contrats existants. Pour le moment, malheureusement, on ne le voit pas. Il y a quand même deux petits éléments assez intéressants sur Orange, c'est qu'il y a eu un changement de management. Hein. Stéphane Richard a passé la main à une nouvelle directrice générale qui est en train de regarder le groupe avec un œil neuf. Elle pourrait éventuellement se séparer de Orange Bank, qui perd beaucoup d'argent et qui est un peu une distraction pour le management. Donc ça, c'est un élément qui nous semble assez intéressant. Et le deuxième élément qui est intéressant, c'est que Orange a passé son pic d'investissement. Donc Orange a investi depuis de nombreuses années sur la fibre. Ça a été assez coûteux. Enfin, ça a mobilisé beaucoup d'argent. Et donc voilà, ce pic de CAPEX, ce pic d'investissement est derrière nous. Donc on a quand même la perspective d'avoir une hausse de la génération de cash dans les prochains temps. Donc sur Orange, c'est assez diversifiant, c'est assez défensif dans leur environnement actuel. Ouais. Donc pourquoi pas, ça donne un dividende assez élevé.
Oui, c'est ça, ça fait partie aussi des titres du rendement. Hein.
Voilà, donc en fonds de portefeuille, pourquoi pas, mais avec assez peu d'espoir d'avoir une grosse hausse des multiples sur ce titre.
Grégoire Hudtwiller répondait ce matin à toutes vos questions. Merci d'être passé nous voir pour Moneta Asset Management. Le marché parisien, lui, reste ancré en territoire positif, mais on est sur les plus bas du jour, moins 0,79%, 5 925 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et pour terminer cette semaine, on retrouve Frédéric Lorenzini qui nous parle d'un FCPR. De quoi s'agit-il ?
Une fois n'est pas coutume, c'est vrai qu'on arrive dans la période un peu fiscale, fin d'année. C'est le moment où les promoteurs mettent sur le marché des FCPR, des FCPI, des Sofica, etc. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un FCPR proposé par Odo BHF. Il s'appelle Odo BHF Global Secondary. Alors, un FCPR, on le rappelle, c'est un fonds commun de placement à risque. Comme il y a du risque, il y a un petit bénéfice fiscal qui n'est pas à l'entrée, mais à la sortie, s'investit dans du private equity, du non-coté. Et ça, c'est assez intéressant parce que, on le sait bien, les marchés actions sont compliqués, les marchés obligataires aussi, et le non-coté, depuis un certain temps déjà, c'est le nouvel Eldorado où les investisseurs ont envie d'aller. Et là, ça s'appelle Global Secondary parce que ça investit en Europe, aux États-Unis, sur le marché secondaire.
Alors justement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce fonds commun de placement à risque ?
Alors, du non-coté, je le disais, ça a le vent en poupe parce que c'est décorrélé, c'est diversifiant, c'est décorrélé. On va avoir des entreprises européennes et américaines. Le gisement du secondaire, c'est quoi ? C'est des entreprises qui étaient déjà en portefeuille dans des fonds. Et là, le gérant le dit clairement, on va procéder à des rachats de portefeuille, de participation ou parts de fonds d'investissement auprès d'autres investisseurs souhaitant céder leurs engagements avant leur terme. L'intérêt de ce marché secondaire, c'est que quand vous faites du capital risque, vous, par définition, mettez du capital pour prendre des risques, et parfois, les entreprises ou les concepts ne sont pas toujours bien validés. Quand vous êtes sur le marché secondaire, les entreprises ont déjà un certain historique, et donc vous avez une meilleure visibilité sur leur solidité et sur le business en cours ou à venir. Et donc c'est ça l'intérêt de ce secondary, c'est d'offrir un peu de visibilité.
Frédéric, vous avez prononcé le mot magique en début de propos.
Fiscalité, oui.
Fiscalité. Quels sont les avantages fiscaux d'investir qui ont trait à l'investissement dans
Alors, l'avantage fiscal sur CFCPR, il n'est pas à l'entrée. À une époque, on pouvait avoir des avantages où on enlevait de son revenu une partie des sommes investies. Là, l'avantage, il va être à la sortie, au terme. C'est des produits qui ont une durée de vie assez longue, on le verra peut-être tout à l'heure. Et donc, au terme de la vie du produit, on a des exonérations sur les plus-values. S'il y a plus-value, il n'y a pas toujours plus-value. C'est ça, c'est un peu ça la difficulté.
Est-ce qu'il y a d'autres avantages avec
Alors, les avantages, c'est la fiscalité, la diversification. Il y a quand même quelques inconvénients. Là, en l'occurrence, dans le cas du Odo BHF Global Secondary, la durée de détention, c'est 7 ans. Et cette durée peut être prorogée par la société de gestion de 3 ans. 7 et 3 10. Donc vous avez votre argent qui est immobilisé une dizaine d'années, donc ça c'est quand même pas neutre, faut l'avoir en tête. On manque sur tous ces produits d'un peu de visibilité sur les actifs. Le non-coté c'est bien parce que c'est décorrélé, l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de valeur instantanée, c'est-à-dire que l'action Total ou Vivendi, à longueur de journée il y a une cotation, on vous dit combien ça vaut. Le non-coté, par définition, il n'y a pas de valeur instantanée. Dernier point que je n'ai pas indiqué, pour rentrer sur ce fonds, la mise minimale c'est 1000 euros.
Voilà donc le cadre posé. Il y a quand même une question aussi à se poser, c'est est-ce que ça donne des résultats ?
Est-ce que ça donne des résultats ? C'est un peu tout le problème de ce type de support, pas ou très peu liquide. On n'a pas de prix instantané comme sur le côté. Alors, est-ce que ça donne de bons résultats ? Là, Odo BHF vient de mettre ce FCPR sur le marché, mais on a jeté un coup d'œil sur un autre fonds, un autre FCPR de Odo BHF qui s'appelle le Secondaries Opportunities. Et effectivement, sur sa littérature, Odo BHF fait état d'une progression de 25% sur 2 ans. Alors ça, c'est séduisant,
pas mal.
25% sur 2 ans. Ouais. Sachant qu'on l'a dit, c'est pas liquide. Donc, oui, il y a des clauses de sortie, chômage, etc., anticipées. Mais hors ces clauses de sortie très spécifiques, vous êtes scotché jusqu'à la fin du contrat. Donc voilà, on ne sait pas si les 25% sur 2 ans seront réplicables ou pas. C'est du déclaratif et on n'a pas de base de données très exhaustive sur les FCPR.
Et souvent, au moment où on s'approche de la sortie, c'est là où...
Souvent, il y a eu une étude parlementaire sur cette question, on s'aperçoit que les frais de gestion année après année, sur 10 ans, mangent ce qu'il y aurait pu y avoir de plus-value. Et donc, on est parfois en moins-value.
Frédéric Lorenzini, donc, pour Patrimoine 24, qui nous accompagne régulièrement et qu'on nous retrouvera dès lundi. D'ici là, un petit détour par 60 minutes business délocalisé aujourd'hui. Bonjour Sandra Gandoin.
Bonjour Cédric Decoeur. Oui, effectivement, délocalisé dans un lieu absolument exceptionnel, la boutique historique de Guerlain sur les Champs-Élysées, boutique qui date de 1914. Nous sommes, vous le voyez, à côté de l'orgue à parfum. On va passer une heure à parler de savoir-faire, de parfumerie, de métiers d'exception. C'est une émission consacrée au luxe, à l'occasion notamment des journées particulières qui commencent aujourd'hui et pour tout le week-end. Émission évidemment à ne pas manquer dans 2 minutes. Restez avec nous.
60 minutes business donc à suivre dans un instant avec Sandra Gandoin. Le marché parisien, lui, eh bien, il a un petit peu réduit sa marche en avant. On est sur les plus bas du jour, mais rassurez-vous, toujours assez nettement dans le vert, plus 0,98%, 5 936 points. Nous, on se donne rendez-vous donc lundi matin, 10h, pour une nouvelle session de BFM Patrimoine. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end.